Un rayon de soleil en plein cœur de ceux qui sont dans le malheur, c'est Jésus.
Bienfaits. Et je te remercie parce que tu es fidèle. Je te remercie pour le fait de pouvoir être ensemble ce soir dans la paix pour pouvoir écouter ta parole librement. Je te remercie parce que ça aussi c'est un bienfait. Je te prie de fortifier chacun qui écoutera ce message, aussi bien dans la chapelle que ceux qui regarderont cette vidéo ou ceux qui écoutent sur Internet avec fidélité. Merci Jésus de bénir chacun, nos frères et sœurs qui sont encore à l'extérieur, Jésus, parce que tu gardes chacun. Amen.
À tous. Ceux qui nous rejoignent sur Internet ne peuvent pas voir que Stéphane Royer s'est payé un nouveau siège de piano. Vous non plus, vous ne le voyez pas. Hein? Ben voilà. Et pourtant, il existe. Hein? Il y a des gens qui disent, moi je crois que ce que je vois, vous ne le voyez pas, mais il existe. Nous allons lire Romains chapitre 8, verset 2, s'il vous plaît. En effet, la loi, on va lire déjà le verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. » Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Dans la vie de tout chrétien, il arrive un moment où il y a une loi qui entre en jeu, c'est la loi de la transmutation. Le mot transmutation, il signifie transformation totale d'une chose en une autre. Les alchimistes, autrefois, cherchaient, oui, il y en a encore, hein, ils cherchent à transformer les métaux lourds en métaux nobles, en métaux précieux, et voilà. Mais tous les hommes de foi, toutes les femmes de foi qui vivaient dans l'ancienne alliance, ont vécu cette transmutation. Mais cette transmutation, pour eux, ça a pu durer des mois, des années, 6 ans, 10 ans pour certains. Et tous les gens de foi dans l'ancienne alliance y vivaient, il faut se le dire, de l'autre côté de la croix. C'est-à-dire qu'ils vivaient avant Jésus-Christ le Seigneur, et Jésus-Christ le Seigneur, le Sauveur, a accompli pour nous quelque chose d'immense. Et c'est ce que l'apôtre Paul, qui est en fait le principal porte-parole de Dieu, l'apôtre Paul est venu pour nous l'enseigner. Son enseignement a traversé les siècles. L'apôtre Paul, il a vécu cette transmutation et il l'expose surtout dans sa magistrale épître aux Romains. Depuis Jésus, Dieu a fait avec l'humanité donc une nouvelle alliance. Nous qui sommes nés de nouveau, passés d'une loi à une autre. C'est ça qui nous a transformés. Par la nouvelle naissance, nous avons été libérés de la loi du péché, de la mort. Ah, c'est ce que nous venons de lire. Par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alors on peut dire Amen sans comprendre, mais c'est mieux de comprendre. Malheureusement, il y a des chrétiens qui se découragent en chemin et bien qu'ils soient nés de nouveau, eh bien, ils cessent de vivre par l'esprit et ils recommencent à vivre selon la chair. Ce qui fait que ils vont tomber dans des choses, des péchés de toutes sortes, voilà. Mais surtout, s'ils restent bien religieux, ils vont être pleins de jugements. Des jugements sur celui-ci, sur celle-là. En fait, ces péchés sont aussi graves que, comme on discutait hier soir avec Edith, l'orgueil, l'argent ou le sexe. Le jugement, juger les uns, juger les autres. Est celle-ci, elle fait comme ça, est celui-là, il fait comme ça. Sous prétexte de vouloir aider les gens, on les juge. Ah bon? C'est un péché grave. Et ils ne vivent pas selon l'esprit de Jésus-Christ, mais comme ils ne veulent pas vivre avec l'esprit de Jésus-Christ, ils ne sont plus au bénéfice de cette loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Et ils vont devoir apprendre à vivre parce que Dieu les aime. Mais ils vont devoir apprendre à vivre comme les gens qui sont sous l'ancienne alliance et qui aimaient Dieu. C'est-à-dire, ils vont apprendre grâce au coup dur de la vie. Eh oui. Alors, il y en a, ils réagissent très mal, en plus, ils se découragent. Oui, comment ça se fait? Je suis chrétien, puis il m'arrive ça, c'est pas possible. Autrefois, Dieu enseignait comme ça par les coups durs de la vie. Maintenant, si nous écoutons ce que l'Esprit de Dieu nous dit, tout est clair par les Écritures. Tout est clair par les Écritures. Par l'Écriture, on apprend à distinguer ce qui est la chair et ce qui est le péché et le point où il demeure en nous. Et vous allez voir, peut-être même vous n'êtes pas au clair là-dessus. Comment nous pouvons en être délivrés? C'est par les Écritures qu'on apprend ça. Un chrétien qui est né de nouveau, qui étudie les Écritures, qui écoute avec foi les enseignements des ministres de Dieu, ils sont comme des voyageurs qui se promènent sur un chemin qui est jalonné de panneaux indicateurs par les Écritures. Nous ne sommes pas des pionniers. C'est Jésus qui a inauguré le chemin. Et il est le chemin. Nous ne sommes pas des pionniers. Avec les Écritures, on ne peut pas se perdre. On est un peu comme à Paris. À Paris, on ne peut pas se perdre. C'est la seule ville au monde où on ne peut pas se perdre, Paris. Parce que le plan de métro est tellement bien fait qu'on ne peut pas se perdre. Mais encore faut-il comprendre comment ça marche, ce plan de métro. Une fois qu'on a pigé ça, on ne peut plus se perdre. Eh bien, avec les Écritures, c'est la même chose. On ne peut pas se perdre si on est vraiment bien dans les Écritures. Ensuite, Paul, il est passé par cette transmutation parce qu'il était dans le péché, il était dans la loi du péché et de la mort, il était dans la loi, faut pas faire ci, faut pas faire ça, si tu fais ci, c'est péché, si tu fais ça, c'est mal, et comme ci, et comme ça, et toujours, et puis se justifiant encore. Et puis, ensuite, il est passé par la conversion, et puis il nous a écrit les choses qui sont nécessaires pour pouvoir marcher selon l'Esprit. Alors, est-ce que vous avez reconnu dans votre vie ce que la Bible appelle le vieil homme en vous? Pas dans la sœur un tel ou dans le frère un tel, mais en vous-même. Est-ce que vous avez reconnu ce que la Bible nomme le péché qui habite en vous. Est-ce que vous savez que c'est deux choses différentes? C'est parce qu'ils méconnaissent cela que beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Est-ce que vous avez reconnu cet ego qu'il faut crucifier? La chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit? Tout ça, ça vous rappelle des versets, hein? Est-ce que vous avez compris qu'il vous est avantageux de renoncer? Avantageux. Est-ce que vous avez mesuré la valeur bénéfique du renoncement? Ou est-ce que c'est encore pour vous quelque chose qui vous semble négatif? L'autre jour, avec Dominique, on parlait au sujet de la confession. Il me disait, c'est vrai, frère Osborne a raison. Il relève le fait que la plupart des chrétiens ont gardé le côté négatif de la confession. Quand ils parlent de la confession, ils pensent confession des péchés. Mais ils comprennent pas le côté positif de la confession. Et là aussi, il y a le côté positif du renoncement, c'est une valeur immense. Alors beaucoup disent, moi je pourrais jamais, ah non je pourrais pas. Est-ce qu'ils lisent les Écritures? Est-ce qu'ils regardent les panneaux d'indication? Ah non, moi je roule n'importe comment. Ah oui, ben alors il y aura des accidents, c'est inévitable. Je sais, certains disent que je suis un intellectuel et que c'est pas bien, gna, je suis pas assez spirituel, je suis trop intellectuel. Alors, je vous pose la question. Y a-t-il une différence entre la connaissance intellectuelle d'une vérité déclarée par l'Écriture et l'expérience de cœur qu'ont pu avoir des hommes et des femmes, des hommes comme Moïse, comme Abraham, comme Jacob, qui n'avaient pas les Écritures? Eh ben non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. La différence se trouve juste entre la loi du péché et de la mort et la loi de l'esprit de vie qu'on trouve en Jésus-Christ. Les Moïse, Jacob, Abraham et autres hommes de foi et toutes les femmes de foi ont été amenés à la connaissance d'eux-mêmes par la seule manière par laquelle ils pouvaient y arriver, puisqu'ils n'avaient pas d'écriture, ils ont été en prise directe avec le vécu, avec la vie, ils marchaient à tâtons, Dieu les corrigeait, ils étaient délivrés de leur moi, mais par le moyen de révélations spéciales. Et c'était des gens pas très nombreux. Pour nous, c'est tout à fait autrement. Pour nous, c'est tout à fait autrement. Nous avons dans la Bible une réserve inestimable dont on doit tirer le meilleur possible pour notre vie privée, notre vie personnelle, à nous. Voilà pourquoi c'est tellement important d'étudier, pas simplement de lire, là, j'ai lu mon verset. Là. Vous devez acquérir toute la vérité possible. Vous devez l'emmagasiner, vous devez l'absorber. Vous devez la comprendre, vous devez vous inspirer, vous devez vous imprégner des enseignements que vous trouvez. Surtout dans Romains 6 à 8. Et une fois que c'est bien intégré ça, vous reprenez l'étude Romains 1 à 5. Et puis ensuite, ben vous avez à obéir. Voilà, tout ce que vous allez trouver là-dedans, obéir, vous soumettre. Vous ne pouvez pas obéir. On ne peut obéir que dans la mesure où on a cherché, reçu, compris la lumière qui est révélée dans les Écritures. Obéir, mais en vue de quoi? Du salut? Non. De la délivrance. Obéir, c'est en vue de la délivrance. Mais en tant qu'être né de nouveau, vous attendez à quelle délivrance? Beaucoup de gens disent, oh, mais on est délivré, Jésus a porté nos péchés, tralalalalère, puis voilà, pouet pouet. Tout chrétien né de nouveau doit obéir en vue de sa délivrance, de la délivrance de son moi. De ce moi qui est finalement quand même tellement chétif, mais tellement autoritaire, tellement empoisonné, tellement localisé quelque part, enfermé dans les mesquineries des mon mien à moi. Ce moi qui convoite mais qui ne possède pas, ce moi qui désire avoir mais qui est incapable de recevoir ce que Dieu veut lui donner, il ne peut pas. ce moi qui vit à la mesure d'un Dieu, n'est-ce pas, dans certains chrétiens, mais qui doit être neutralisé, pour pouvoir être délivré du péché et enfin être habité par Jésus pour enfin tout savoir, tout posséder et tout accomplir au nom de Jésus. C'est votre moi qui doit tout accomplir au nom de Jésus. Mais s'il est habité par le péché, c'est cette chair dont Paul parle si souvent, ce vieil homme, cette nature charnelle, ce moi, il est sorti d'où ? Des mains saintes de Dieu. Il est sorti, voilà d'où il est sorti ce moi, des mains saintes de Dieu. Le problème, c'est qu'il s'est détourné de sa destination propre, de serviteur humble et obéissant, pour se mettre au service du péché. Il était asservi par Satan, par le péché. Il est devenu un instrument diabolique dans le royaume des ténèbres, là où nous sommes, dans ce monde. Ce moi, il a été créé par Dieu. Il est merveilleux. Et le remède pour soigner ce moi, c'est pas sa destruction. C'est pas ça, mais c'est sa délivrance. Sa délivrance, mes frères et sœurs. Il faut délivrer ce moi, le purifier, le rendre à son vrai maître, à Jésus-Christ, le Seigneur. Le Seigneur de quoi ? Ben de ce moi. Il doit être mon Seigneur. Vous savez à quoi on peut comparer ce moi ? On peut le comparer à ce pauvre homme qui était possédé, et qui était possédé par plusieurs démons, et qui errait au hasard, et puis qui était nu, qui n'avait pas de vêtements. Et plus tard, on le retrouve. Les démons sont sortis de lui, il est assis au pied de Jésus, il écoute le maître. C'est le même homme ! C'est le même homme ! C'est le même ! Mais dans deux conditions totalement différentes. Mais c'est le même ! Il était d'abord lié au démon, et puis ensuite il s'est attaché à Jésus. C'était le même. Il ne faut pas méconnaître ces choses, mes frères et sœurs. C'est pour les avoir méconnues, pour les avoir négligées, pour ne pas les avoir étudiées, que beaucoup de chrétiens sont restés dans la confusion. Ils sont dans la confusion. Ils se trompent d'ennemis. Écoutez l'enseignement. Obéissez. Quel enseignement, par exemple ? L'enseignement de l'apôtre Paul dit « Considérez-vous comme mort au péché, mais comme vivant en Dieu par Jésus-Christ. » Il ne vous dit pas de vous considérer comme mort. Votre moi ne doit pas mourir, il doit vivre pour Dieu. Mais il doit être mort au péché. Votre chair, ce n'est pas le péché. Votre chair n'est pas péché. Par contre, nous avons à purifier notre chair des souillures. Les souillures de la chair. Ça, il faut purifier, faut enlever. Quand on a un vêtement qui est sale, on le nettoie, mais c'est toujours un vêtement après. Ce n'est pas la chair qui est péché, mais c'est l'affection de la chair qui est inimitié contre Dieu, si elle s'affectionne aux choses qui sont contre Dieu. L'apôtre Paul, faites bien attention à ce qu'il dit. Il ne dit pas que les péchés sont les fruits de la chair, il dit que les péchés, c'est les œuvres de la chair, mais pas le fruit. Ce n'est pas ça que la chair doit produire. Il dit par contre que les fruits du péché habitent en nous et sont accomplis par la chair, par notre moi. Ça, c'est très différent. Mais qui enseigne ça ? Paul ? Pas Jésus. Jésus, il est le point entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et ensuite, il a donné sa vie à la croix. Et une fois que ça a été fait, on est entré dans la nouvelle alliance et Dieu a suscité Paul pour nous expliquer ça. C'est toujours le même Dieu en Paul. Qui nous enseigne ça ? Écoutez l'enseignement. Paul, il disait, « Moi aussi, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Moi, circoncis le huitième jour. Moi, de la race d'Israël, moi de la tribu de Benjamin, moi hébreu, moi né d'hébreu. Mais où est le péché dans toutes ces choses-là? C'est pas péché d'être d'Israël, d'être la tribu de Benjamin, d'être circoncis le huitième jour et toutes ces choses-là. Il n'y a aucune de ces choses n'est péché. Il dit, moi aussi je pourrais me confier dans la chair. Et toutes ces choses-là ne sont pas péchés. Toutes ces choses étaient simplement des éléments naturels qui faisaient que ça c'était Paul, c'était son moi. C'était les éléments de son éducation, de son expérience et tout. Mais Paul appelle tout ça la chair. Et plus tard, ce même Paul, dans Galates 5, 24, il dit, il nous faut crucifier la chair. Mais la chair n'est pas le péché. Mais le péché qui habite en nous, c'est autre chose. C'est autre chose. Il faut écouter l'enseignement. Alors, la chair. Tout à l'heure, on parlait de chemin. Là, je vais vous parler d'avenue maintenant. La chair, ce sont les avenues de la tentation dans lesquelles se promènent toutes sortes. Ce sont des avenues. C'est ça qui doit être. C'est ce qui occupe ces avenues qui doit être crucifié. Si ce qu'il y a dans ces avenues sont occupés, sont empoisonnés, sont. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Si le péché habite dans votre moi, c'est alors il faut crucifier ça, il faut arrêter, il faut vider ça, il faut nettoyer les rues, nettoyer ces avenues. Mais c'est pas votre chair qui est le péché. Votre chair a été créée par Dieu, c'est une chose magnifique. Votre moi, la personne que vous êtes devenue de par votre éducation et tout ça, mais c'est formidable. Maintenant, est-ce que c'est consacré à Dieu ou est-ce que c'est livré au diable? Ainsi, notre chair n'est pas péché, notre chair, elle est semblable à la chair de Jésus. Jésus est venu habiter dans une chair semblable à la nôtre. Si Jésus était plein de péché, il n'est pas plein de péché. Et pourtant, il avait une chair semblable à la nôtre. Donc, ce n'est pas la chair qui est le péché. La différence, elle se trouve dans la compréhension. La différence, elle se trouve dans la connaissance de quoi? De ce que Paul nous enseigne, que les autres ont dû découvrir dans les coups durs de la vie et que vous allez devoir découvrir en vivant des coups durs jusqu'à ce que vous fléchissiez les genoux et que vous renonciez. Si vous ne voulez pas vivre par l'esprit, c'est ça qui va vous arriver. Comme à ceux qui étaient avant la croix. Et c'est pourquoi tant de chrétiens ont tant de difficultés, tant de problèmes, ils n'arrivent pas. Parce que ils ne vivent pas selon l'esprit. Vivre selon l'esprit, c'est vivre selon l'esprit qui a dicté ça, ce livre. Alors évidemment, on peut trouver toutes ces choses-là sans le livre. Les Moïse et compagnie ont trouvé ça sans le livre. Ils ont été sauvés par la foi, ces gens-là, en Dieu. Êtes-vous sous la loi du péché et de la mort, ou êtes-vous sous la loi de vie, sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ? Tout est là. Tout est là. Votre vous, votre moi là. Où il est? Sous quelle loi? La transmutation, elle se fait miraculeusement quand on a la foi placée dans le bon enseignement. Soit c'est l'enseignement biblique qui vous le fait comprendre, soit c'est l'enseignement de la vie, les coups durs, qui finalement peut-être va vous faire comprendre, parce que tout le monde ne comprend pas avec les coups durs. En plus, on dit, oui, Dieu m'a abandonné. Oui, ben cette fois j'ai trop péché, alors maintenant voilà pourquoi j'en suis là. Ou bien alors, oui, il doit y avoir une malédiction dans ma vie, parce que j'arrive pas à me délivrer de ça et ça et ça et ça. Ou alors j'ai que des problèmes, il y a une malédiction dans ma vie. Oui, oui, oui. Non, pas du tout. La malédiction n'a aucun pouvoir contre les enfants de Dieu. Il faut vraiment être des illettrés arriérés pour croire ça. Mais bon, il y a des illettrés arriérés, mais il faut les instruire. Voilà pourquoi voilà pourquoi j'enseigne, voilà pourquoi on met ça sur Internet, voilà pourquoi on dit ça à la télévision. Voilà. Pour instruire les illettrés arriérés, pour qu'ils deviennent libres en Jésus-Christ, qu'ils sachent qu'ils ne sont plus sous une loi de péché et de mort, mais sous une loi de vie, l'esprit. Alors, si vous luttez contre la chair, eh bien, vous ne luttez pas contre la racine, vous luttez contre les effets, n'est-ce pas, que le péché produise au travers de votre chair. Le combat, c'est contre le péché, c'est pas contre la chair. Renoncez à l'esprit de mort qui cherche à circuler dans les avenues de votre chair. Renoncez à lui obéir. Renoncez à vous soumettre à ces choses qui circulent, qui essayent de se faire un chemin en vous. Soumettez-vous de cœur à l'esprit de vie de Jésus-Christ. Mais pas simplement en disant, oui Seigneur, je me soumets de cœur à ton esprit de vie. Non, ça suffit pas. Pour pouvoir y arriver, il faut s'instruire. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend, de la parole de Dieu. Il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de dire. Il faut étudier et ensuite obéir aux choses qu'on a comprises. Et Dieu est là pour faire le miracle de transmutation, de transformation totale. Soumettez-vous à l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ et à ce qui est établi par Jésus-Christ dans l'Église pour votre croissance. Mais ce qui est établi par Jésus-Christ, pas ce qui est établi par un distributeur de diplômes. Rien à voir. Hein? Alors bon. On va encore dire, voilà, Michel, tu nous as sorti quelque chose de bien intellectuel, tu nous as dit que c'était par la connaissance, oui. Je vais vous dire quelque chose. Si c'est un péché que d'être intellectuel, si c'est un péché que de chercher dans la connaissance, alors pourquoi Dieu a-t-il choisi Paul pour nous expliquer toutes ces choses-là? Les vérités fondamentales que Jésus est venu établir dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi il a établi Paul? Pourquoi il n'a pas utilisé Pierre, cet illettré? Je ne méprise pas Pierre en disant que c'était un illettré. C'était un illettré. Est-ce que vous savez que l'évangile que vous appelez l'évangile de Marc n'est pas l'évangile de Marc? C'est l'évangile de Pierre dicté par Pierre à Marc qui lui savait écrire. Est-ce que vous savez ça? C'est pas Pierre. C'est pas l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Pierre. Parce qu'il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Jésus, lui, il avait eu un privilège extraordinaire de pouvoir apprendre à lire et à écrire. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il était fils de charpentier. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire qu'il était le fils d'un bonhomme qui avait un établi avec des scies, des étaux, des haches, des rabots, des machins comme ça. Fils de charpentier, à l'époque, ça voulait dire, c'était un petit peu comme si vous voulez dire... Je vais vous choquer. C'était un titre. C'était un titre honorifique, comme par exemple, on va dire, lui, il est de la loge machin chez les maçons. Est-ce qu'il est maçon? Non, il n'est pas maçon. Mais, voilà, chez les francs-maçons, il apprend des choses, donc il a une connaissance, il a un statut, mais il n'est pas maçon. C'est une société, la franc-maçonnerie, mais ce n'est pas des maçons, les francs-maçons. Eh bien, à l'époque, les charpentiers, c'était une confrérie de personnes qui étaient des dignitaires, des gens qui avaient accès à l'éducation. Ne me faites pas dire que Joseph était un franc-maçon. Si vous allez dire ça, c'est que vraiment vous êtes bête. Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Je vous ai expliqué qu'à cette époque-là, les charpentiers, le fils du charpentier, c'était... un titre honorifique qu'on donnait à une certaine partie de la population, des gens qui avaient eu un droit, un accès à l'éducation, à pas seulement à l'éducation, à l'instruction. Ok? Alors, ça n'empêche qu'il était peut-être charpentier, peut-être bien. En tout cas, Jésus a appris de son père. Et voilà pourquoi il savait lire. Et voilà pourquoi il savait écrire. Voilà pourquoi quand il arrivait à la synagogue, il a pu lire ce qui était écrit. On l'a laissé parce qu'on savait qu'il pouvait lire. On savait qu'il pouvait écrire. On sait aussi qu'il écrit quelque chose par terre, dans la poussière. Vous rappelez l'histoire. Pourquoi alors il n'a pas utilisé Pierre? Lui, c'est un simple pêcheur. Pêcheur dans le sens des poissons, mais aussi dans l'autre sens. C'était un pêcheur-pêcheur. Mais il ne savait pas lire. Pourquoi il n'a pas utilisé les 12? Parce que les 12, il les a utilisés pour d'autres choses. Pour d'autres choses. C'est par Paul, un intellectuel, que nous parvient la révélation de la transmutation, c'est-à-dire du passage de la loi de la mort et du péché à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est lui qui a expliqué ça. C'est lui qui a eu la révélation de ça et c'est lui qui l'a donné. Parce que c'était lui le scribe de la nouvelle alliance, en tout cas au moins pour nous, les païens, les non-juifs. Moïse aussi c'était un intello, élevé dans toute la connaissance, etc., etc. Parce que les alliances primordiales, les alliances de base qui sont faites entre Dieu et les hommes, c'est pas simplement des espèces de petites doctrines et des credos en 10 points qu'on a inscrit quelque part pour justifier qu'on est bien des chrétiens. Non, 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 non. Une alliance passée entre Dieu et les hommes, c'est quelque chose de très sérieux, de très profond, d'inestimablement profond, très important et intelligent. On peut fouiller pendant des siècles et jamais toucher le fond. Tellement que c'est intellectuel. Et on peut très bien comprendre si on est un ignare aussi. Dieu se révèle comme il veut. Mais maintenant, quelqu'un qui est un ignare, il doit apprendre. Je me rappelle, j'étais à Ouagadougou, et nous avons réuni avec Michou, je crois, je sais plus, une vingtaine ou une trentaine de pasteurs avec leurs épouses dans un hôtel. Et là, je leur ai parlé, je leur ai dit, mes frères et sœurs, mes frères, il faut que vous appreniez à lire. La plupart ne savent pas lire. Ils sont pasteurs, ils ne savent pas lire. Eh bien, sur le nombre qui était là, il y en a un qui a décidé, oui, je vais aller à l'école. Ça y est, il a passé son bac. Un sur à peu près une trentaine. Mais quand on est chrétien, on est responsable de notre propre âme et on doit apprendre. Moi, je ne veux pas apprendre simplement parce que quelqu'un me dit. Je veux aller lire dans les textes. Et même pas seulement dans les textes en français, je veux chercher à savoir davantage, je veux savoir plus encore, j'allais chercher plus profond. On n'a pas d'originaux, mais on peut aller au plus loin possible dans la connaissance. Savez-vous que, par exemple, dans toutes vos Bibles, c'est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Mais dans les plus vieux textes, c'est pas écrit comme ça. C'est écrit « Au commencement, créa Dieu ». C'est le commencement qui créa Dieu ou qu'est-ce que c'est? C'est le commencement qui a créé Dieu ou c'est, ça veut dire quoi? Alors, pour que les gens des nations ne se tourmentent pas avec quelque chose comme cela, eh bien, quand ils ont écrit la Septante, ils ont maquillé ça, ils ont transformé ça, ils ont écrit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et pourquoi est-ce que Dieu veut que ça soit écrit en réalité? Au commencement créa Dieu. Pourquoi Dieu veut que ça soit écrit comme ça? Eh bien, j'ai écouté un rabbin qui expliquait, il disait, c'est parce que la vérité, elle est tellement absolue qu'elle n'a aucune crainte. Donc, elle se permet, de temps en temps, d'être ambiguë de façon à ce que ceux qui ne veulent pas croire trouvent un bon moyen pour ne pas croire. Waouh! Ça, c'est fort. Eh bien, mes frères et sœurs, en apprenant, en cherchant à comprendre, on apprend de plus en plus qui est Dieu, sa personnalité, comment il agit, comment il prévoit les choses, comment il voit les choses. Et n'est-ce pas là, la vie éternelle? Jésus nous dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Mais on ne connaît pas Dieu simplement parce que on se met dans la position du lotus et puis qu'on parle en langue pendant 3 quarts d'heure. On connaît Dieu par les Écritures, mes frères et sœurs. On connaît Dieu par les Écritures. Vous ne connaissez Jésus-Christ que parce qu'il y a des Écritures. Vous n'avez entendu parler du salut par la foi que par les Écritures. Pas par une révélation de la concierge du 28 qui est venue vous dire qu'un ange est apparu pour lui dire. Hein? Non, par les Écritures. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas par révélation. Mais il faut que ça soit toujours selon les Écritures. Donc, il faut étudier les Écritures. Il faut aimer les Écritures. Il faut plonger dans les Écritures. Vous pouvez. Alors, il y en a, il faut déjà les secouer pour qu'ils aillent prier, mais alors encore plus pour aller lire, pour aller plonger dans les Écritures. Et pourtant, c'est là qu'il y a la vie. C'est là qu'il y a la vie. Je voudrais tellement que vous tombiez amoureux des Saintes Écritures. C'est un trésor inestimable. De ce côté de la croix, la connaissance de ces choses est nécessaire. Si vous n'en voulez pas, eh bien, Dieu va vous apprendre autrement, par les coups durs. Amen. Jésus, je te prie que mes frères et sœurs fassent le bon choix ce soir et qu'ils décident de mettre vraiment du temps chaque jour non seulement pour la prière, mais aussi pour l'étude des Écritures. Merci Jésus. Merci mon Dieu de travailler les cœurs pour cela. Merci Jésus. Je te fais confiance, je crois que cela va arriver. Du moins, au moins, dans notre communauté, sinon, en tout cas aussi avec ceux qui écoutent sur Internet ou qui regardent la télé. Dans le nom de Jésus, tous ceux qui ont pu entendre ce message, que cela entre dans leur conscience et les travaille, afin qu'ils aient ce saint désir d'aller plonger leur regard dans les Écritures, là où les anges eux-mêmes voudraient tellement, tellement aller lire. Merci Seigneur Dieu.